Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 19 août à Séoul et la Corée du Sud se prépare à accueillir le jour de Chuseok, une date du calendrier lunaire qui marque traditionnellement la fin de l'été. À partir de ce jour-là, la chaleur est censée s'apaiser, les moustiques perdre leur vigueur. Pourtant, à seulement 4 jours de ce jour symbolique, la réalité météorologique est tout autre. Les vagues de chaleur persistent, les nuits restent étouffantes et le répit tant attendu tarde à se manifester. Beaucoup s'interrogent alors, la fameuse magie de Chuseok se fera a-t-elle ressentir cette année? C'est dans cette atmosphère encore lourde mais habitée par l'attente d'un souffle plus frais que s'ouvre notre édition de ce mardi. Cette année, il y a non seulement les vacances d'été mais aussi un long congé pour Chuseok. Comme partir deux fois en vacances aurait pesé trop lourd sur mon budget, j'ai choisi de rester dans le sud, à Namhae, pour profiter de la saison, a confié un salarié de 29 ans dont le congé est prévu à la fin du mois. Il a raconté avoir déjà renoncé aux destinations trop connues qui, en pleine saison, se sont révélées coûteuses et surpeuplées. On est rentré plus épuisé que reposé. Cette fois, j'ai eu envie de lever le pied, de goûter aux petites adresses fréquentées par les gens du coin, de faire mes emplettes au marché et de préparer moi-même mes repas sur place, a-t-il ajouté. Ce choix reflète une tendance plus large. La Chambre de commerce et d'industrie de Corée a révélé en juin que 83,5% des 800 salariés interrogés prévoyaient de profiter de la période estivale dans le pays. La durée la plus fréquente prévue est de 3 jours, suivie de 4 jours, puis de 2 jours. Ce phénomène s'explique par l'effet conjugué d'une longue trêve de 7 jours début octobre pour Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, et d'une inflation persistante qui pousse de nombreuses personnes à limiter leur budget d'été dans l'esprit d'escapade modeste. Selon Chan Mi-yang, chercheuse au Centre d'analyse des tendances de consommation de l'Université nationale de Séoul, cette année particulière, riche en congés, a dispersé la demande touristique et stimulé l'attrait pour les voyages de proximité. La conjoncture économique moins favorable encourage également le choix du tourisme intérieur. Sur place, les vacanciers optent souvent pour des solutions économiques, faire leurs courses au marché local ou dans les supermarchés et préparer eux-mêmes leurs repas. Un salarié de 41 ans, récemment revenu d'un séjour familial à Sokcho, dans la province du Gangwon, a témoigné « Nous avions réservé un appartement avec cuisine. Le dernier soir, nous avons acheté des produits locaux au marché traditionnel et préparé le dîner. Avec la hausse du coût de la vie, nous cherchons à réduire les dépenses liées à notre pause estivale. » Cette préférence pour des vacances plus sobres se retrouve aussi dans le succès du Mallkens, contraction de mall et vacances, consistant à passer ses congés dans un centre commercial. En effet, le grand magasin Shinsegae Centum City de Busan a enregistré le mois dernier une hausse de 6% de ses ventes par rapport à la même période l'an dernier. Selon l'enseigne, les installations comme le spa ou la patinoire attirent un nombre croissant de familles. Selon Kwak Kung-ju, professeur de psychologie à l'Université nationale de Séoul, la forte chaleur pousse à chercher des loisirs en intérieur. Les grands magasins et hypermarchés qui concentrent restauration, boutique et divertissement deviennent des refuges prisés pour se rafraîchir et se détendre. La flambée des prix ne pèse pas seulement sur les projets de vacances, elle s'invite dans la vie quotidienne et transforme les habitudes les plus ordinaires. Han, un salarié de 29 ans à Séoul, a récemment choisi de louer un petit studio à proximité de son bureau. Il y a trouvé une nouvelle façon de vivre sa pause déjeuner. Il mange seul, souvent en regardant les réseaux sociaux et apprécie cette parenthèse qui lui permet d'économiser à la fois du temps et de l'argent. Avec le coût élevé persistant de la vie, la montée de l'individualisme se reflète jusque dans ce moment autrefois réservé aux repas entre collègues. Manger seul devient de plus en plus courant et même en période de ralentissement de la consommation, les ventes de plats prêts à l'emploi et de portions individuelles progressent à grande vitesse. D'après les données publiées le 17 août par le service d'information en ligne COSIS, géré par l'Institut national des statistiques, les prix de la restauration ont augmenté en juillet de 3,2% par rapport à l'année précédente, dépassant l'inflation globale de 2,1%. À Séoul, le prix moyen d'un kimchi jjigae, l'un des plats les plus courants de la cuisine coréenne, atteignait 8 500 won en juin dernier, soit une hausse de 30% en 5 ans. Face à ce fardeau, de plus en plus de salariés choisissent de rentrer déjeuner à la maison ou d'apporter leur repas. Selon le COSIS, en 2024, près de 27% des déjeuners et 26% des dîners étaient pris seuls en semaine. Ces proportions représentent une augmentation de plus de 5 points pour le midi et de 10 pour le soir en seulement 5 ans. Cette tendance des repas solitaires a également stimulé la demande des plats prêts à consommer. Les plateaux vendus dans les supérettes permettent de se restaurer pour environ 5 à 6 000 won, une solution perçue comme avantageuse par des consommateurs soucieux de leur budget. La chaîne coréenne CU a ainsi constaté une croissance de 22,9% de ses ventes de ce type de produits au premier semestre par rapport à l'an dernier. Le phénomène s'affirme également dans l'univers du téléachat, où les commandes de plats tout prêts en grande quantité ne cessent d'augmenter. L'un des principaux canaux a enregistré une croissance de 30% en un an, atteignant un record. Et même les plateformes de livraison s'adaptent à cette demande. Depuis fin avril, Bedale Minjok, l'application sud-coréenne la plus utilisée pour commander des repas, propose une formule un seul bol. Et en à peine 70 jours, plus d'un million d'utilisateurs y ont déjà eu recours. Autrefois marquée par une forte préférence pour les garçons, la société coréenne semble avoir inversé la tendance et aujourd'hui, les filles ont la cote. C'est une évolution telle que la part de ceux qui disent préférer avoir une fille est presque 3 fois plus élevée qu'il y a 30 ans, atteignant un niveau record à l'échelle mondiale. D'après une enquête menée par Gallup International dans 44 pays sur la question « Si vous ne pouviez avoir qu'un seul enfant, de quel sexe le souhaiteriez-vous ?», la Corée du Sud arrive en tête avec 28% des sondés exprimant leur souhait d'avoir une fille. Le Japon, l'Espagne et les Philippines suivent de près avec 26%, devant le Bangladesh à 24%. Même si la préférence pour les filles progresse, des différences liées à l'âge subsistent. Parmi les plus de 60 ans, l'avantage reste du côté des garçons, avec 23% contre 20% pour les filles. Chez les moins de 50 ans, en revanche, les filles sont nettement privilégiées. En 1992, un sondage similaire montrait que 58% des personnes interrogées souhaitaient un garçon et seulement 10% une fille. En l'espace de 30 ans, l'attrait pour celle-ci a donc presque triplé. Une autre étude, publiée en juin dernier par Korea Research et intitulée « Enquête 2024 sur les perceptions de la parentalité et de l'éducation des enfants » va dans le même sens. Sur 1000 adultes interrogés à travers le pays, 62% estiment qu'il faut au moins une fille dans la famille. Ce renversement est jugé remarquable à l'échelle internationale. En juin, l'hebdomadaire britannique The Economist notait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plusieurs régions du monde entier manifestaient une inclination pour le genre féminin, la Corée en étant l'exemple le plus frappant. Selon le magazine, cette évolution s'expliquerait par une combinaison de facteurs allant du changement de perception des genres à la hausse du nombre d'hommes célibataires en passant par une remise en question sociétale de la misogynie. Certains sociologues avancent aussi une raison plus pratique. Les filles seraient plus investies dans les soins et plus susceptibles de s'occuper de leurs parents âgés. En effet, une thèse de master présentée en 2023 à l'école supérieure de soins infirmiers de l'université Hanyang par Kim Dami montre que parmi les familles prenant en charge des personnes âgées atteintes de démence, 82,4% des aidants étaient des femmes contre 17,6% des hommes. Écoutons à présent une chanson de circonstance. Voici Mother to Daughter de Yang Hyun en featuring avec Kim Gyuri.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 19 août 2025 vous est présentée par Maxime Lalo. Chaque année, le 29 mai sera désormais la journée des dispositifs médicaux et le 7 septembre, celle des cosmétiques. Le ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique a récemment annoncé que cette mesure figurait dans l'un des 6 projets de loi, dont la loi sur l'hygiène alimentaire, adoptée par l'Assemblée nationale le 13 août. Avec la révision de la loi sur les cosmétiques, le ministère entend soutenir le renforcement de la compétitivité internationale du secteur, tout en sensibilisant le public à la sécurité et à la qualité des produits. C'est dans cette optique que la date du 7 septembre a été retenue comme journée dédiée à ce domaine. Le 29 mai devient quant à lui la journée des dispositifs médicaux, l'occasion de mettre en valeur leur statut international et de rappeler auprès des professionnels comme du grand public leur rôle clé comme moteur de croissance pour l'avenir. Pour faire connaître cette nouvelle date consacrée à la beauté, l'administration organise jusqu'au 22 août un événement sur son compte Instagram officiel. Il suffit de suivre le compte, d'aimer la publication posant la question « À quelle date aura lieu la journée des cosmétiques ?», de laisser la bonne réponse en commentaire, puis de se rendre sur le lien figurant dans la bio afin de remplir le formulaire de participation. Et les gagnants seront désignés par tirage au sort. À partir du 25 août, une autre campagne baptisée « Événement de soutien à la journée des cosmétiques » viendra prolonger la célébration. Cette année, la première cérémonie officielle aura lieu le 5 septembre au centre de conférence COEX à Séoul sous le thème « K-Cosmétique, colorer le monde ». Des représentants du gouvernement, du parlement et de l'industrie seront présents. En collaboration avec la ville de Séoul, le ministère participera également à la Seoul Beauty Week qui se tiendra du 28 au 30 août au Dongdaemun Design Plaza. Un stand y retracera l'histoire de la filière et présentera les politiques ainsi que les réglementations du secteur. Il reviendra aussi sur la création de cette journée commémorative et proposera des animations destinées au public. Un responsable de l'autorité sanitaire a précisé que des préparatifs étaient en cours pour introduire un système d'évaluation de la sécurité des produits de beauté et pour renforcer l'appui des organismes spécialisés. Il a ajouté que des efforts seraient menés en coopération avec les autorités de régulation étrangères afin de favoriser l'exportation des marques sud-coréennes et de renforcer la coopération internationale en matière de réglementation. L'engouement pour le Musée national de Corée ne faiblit pas. Depuis quelques années, sa fréquentation grimpe discrètement, mais sûrement au point d'atteindre l'an dernier la 8e position au niveau mondial. Ce classement le place parmi les prestigieuses institutions telles que le Musée national du Palais à Taïwan ou le Louvre à Paris. Aujourd'hui, les visiteurs n'hésitent pas à se lancer dans un open run pour assister à une exposition prisée ou repartir les bras chargés de souvenirs. Alors, quel est le secret de cette réussite ? Franchement, j'ai été surpris. L'entrée est gratuite et à ce niveau de qualité, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en Europe. Julian, venu d'Allemagne, a répondu ainsi à la question posée sur ses impressions après son passage. Historien de l'art, il a parcouru des dizaines de musées et de galeries à travers l'Europe, mais compte celui de Séoul parmi les meilleurs. Interrogé sur la possibilité de venir en Corée uniquement pour le visiter, il répond en hochant la tête que le lieu n'a rien à envier au plus grand musée du monde. Certains touristes étrangers vont même jusqu'à attendre l'ouverture à l'entrée pour profiter pleinement de leur découverte. D'autres se précipitent vers la boutique pour mettre la main sur les produits dérivés les plus convoités. Tommy, un Américain en séjour d'une semaine, est resté sur place jusqu'à la fermeture à 18h et est reparti avec un sac bien rempli. Il a expliqué avoir dépensé plus de 100 000 won pour offrir des cadeaux à sa compagne et il prévoyait déjà de revenir pour acheter ce qu'il n'a pas trouvé. Ce qui séduit, c'est aussi l'originalité des expositions qui mettent en valeur l'identité coréenne, les marches monumentales et le parc situé devant l'institution qui offre une vue sur la tour Namsan et le pavillon traditionnel sont pris d'assaut par ceux qui veulent immortaliser leur visite. À l'intérieur, l'exposition du rez-de-chaussée commémorant le 80e anniversaire de la libération attire de nombreux regards, tout comme les projections réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour Ji Yun, venu de Chine, la fusion entre patrimoine et nouvelles technologies est un atout unique à la Corée. Et la fréquentation devrait encore augmenter. Rien qu'en juillet, après le succès du film d'animation K-pop Demon Hunters, plus de 700 000 personnes ont franchi ses portes, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier. Et les mois d'octobre et novembre, marqués par un pic de tourisme, sont encore à venir. De plus en plus d'agences de voyage intègrent désormais ce haut lieu culturel dans leur circuit de groupe. Le Musée national de Corée prévoit aussi d'élargir son offre. Le programme inclura notamment des conférences que le directeur animera en personne et des moments d'échange avec les conservateurs. L'établissement assure vouloir continuer à développer des contenus à la hauteur de l'intérêt grandissant qu'il suscite. À 130 mètres au-dessus de Yoido, un ballon captif en forme de pleine lune invite les visiteurs à survoler la rivière Han et les toits de Séoul. Baptisé Seoul-dal, il a déjà séduit plus de 50 000 passagers en un an, devenant une nouvelle attraction emblématique de la capitale. Avec ses 22,5 mètres de diamètre, ce géant gonflé à l'hélium se distingue des montgolfières classiques car il n'utilise ni flamme ni brûleur. L'ascension se fait verticalement et en douceur, le ballon restant relié au sol par de solides câbles. Lorsqu'il redescend, les cordes se resserrent puis se relâchent au moment de repartir vers le ciel. Le dispositif rappelle le ballon de Paris qui flotte au-dessus du parc André Citroën dans la capitale française. Depuis son premier vol le 23 août 2024, la Lune de Séoul a déjà assuré plus de 5400 ascensions, toutes sans incident, et a fonctionné 235 jours en un an. Chaque jour, près de 230 passagers ont pris place à bord. La ville assure que la sécurité reste une priorité grâce à des inspections régulières menées avec les pompiers de Yeongdong-po et à une formation de sécurité obligatoire avant l'embarquement pour chaque passager. Parmi les voyageurs qui ont tenté l'expérience, près de 70% étaient sud-coréens et un tiers étaient étrangers. Depuis avril, la proportion de visiteurs internationaux grimpe même à 40%, un succès attribué aux réservations en ligne via les agences de voyage. L'affluence culmine surtout en fin de journée, vers 18h, et durant les mois de septembre et d'octobre, quand l'air devient plus frais et que la lumière éclaire doucement les rives du fleuve. Un an après son envol, Seoul-dal s'apprête à souffler sa première bougie avec un programme festif. À partir du 22 août et pendant 2 semaines, l'attraction accueillera ses visiteurs chaque vendredi et le week-end avec différentes activités. Un espace photo sera aménagé pour immortaliser ce moment suspendu entre ciel et terre. Le directeur de la Seoul Tourism Organization, Kil Gi-yeon, a promis de poursuivre l'aventure en offrant une expérience toujours plus sûre, mais aussi plus joyeuse. Et juste avant de passer le micro à Christelle Drouat pour Carte Postale, je vous propose d'écouter Moon of Seoul de Kim Kwon-mo.
Aujourd'hui, je vous emmène en balade. En plein cœur de Séoul, dans le quartier de Dongjak, le parc Borame est connu pour ses vastes pelouses, ses zones sportives et ses sentiers ombragés. Mais depuis quelques temps, un nouvel espace attire l'attention, le Seoul International Garden Show. Ce projet est né de l'idée de créer un lieu où différentes cultures pourraient se rencontrer, à travers les plantes. Chaque section du jardin a été conçue en collaboration avec des ambassades, des instituts culturels ou des communautés étrangères vivant en Corée, afin de refléter l'identité végétale et paysagère d'un pays. On y retrouve par exemple un jardin japonais avec ses érables et ses lignes épurées, un coin inspiré des paysages vietnamiens ou encore un espace aux accents méditerranéens où lavande et olivier rappellent le sud de l'Europe. La balade dans le Seoul International Garden est donc un véritable voyage botanique qui se tient au Borame Park jusqu'au 20 octobre 2025. Sur près de 400 000 mètres carrés, cet espace jardin éphémère propose cette année 111 jardins différents, soit plus que jamais, répartis sur un vaste espace au cœur de la ville. Une édition anniversaire, la 10e depuis la première en 2015. Chaque jardin raconte une histoire, souvent inspirée par un pays, une culture, une idée. On y croise des espaces créés par les 25 arrondissements de Séoul, mais aussi par des entreprises et institutions venues de toute la Corée. Le thème de cette année, Seoul Green Seoul, une invitation à découvrir la capitale comme une ville profondément végétale, un souffle de nature au milieu du béton et du bitume. Parmi les créations remarquées, The Spring Grove, un jardin imaginé par l'Organisation asiatique de coopération forestière. Il représente les 17 pays membres avec des espèces symboliques, un véritable pont végétal entre les cultures. Le show qui attire déjà des millions de visiteurs propose aussi des moments de vie. Marché, food truck et même un espace dédié au mariage en pleine nature, pour ceux qui veulent célébrer sous les arbres. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, plusieurs événements professionnels accompagnent l'exposition, comme le Symposium international sur le jardinage qui clôturera la saison en octobre. Ce grand rendez-vous végétal est aussi un bel exemple d'accessibilité. Des services adaptés sont proposés pour que tout le monde puisse profiter de la magie des jardins. Alors si vous cherchez une idée de promenade ensoleillée, un moment de calme ou simplement un dépaysement au cœur de Séoul, le Seoul International Garden Show vous tend les bras jusqu'à fin octobre. Un beau rappel que même en ville, la nature reste un spectacle vivant et précieux.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Ha Jin-ho à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.